Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, avec une émission un peu particulière aujourd'hui consacrée à l'école en prison, puisque nous parlons d'éducation chaque vendredi. Mais aujourd'hui, je reçois deux enseignantes qui vont nous raconter leur mission depuis plus de 10 ans, lutter contre ce deuxième enfermement, l'ignorance. Alors comment fonctionne un centre scolaire au quartier des mineurs ou chez les adultes? Comment enseigner à des hommes qui ont parfois de 18 à 78 ans? Comment gérer une classe de seulement 5 apprenants, mais qui sèment souvent le chaos? Et surtout, quel miracle peut-on faire pousser en milieu carcéral avec l'écriture ou encore la géométrie? Bref, l'école en prison est-elle une porte de sortie et un ticket vers la réinsertion? C'est en tout cas la belle question que vous posez, Sylvie Paré et Cécile Deram. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous enseignez donc toutes les deux à la maison d'arrêt de Nanterre depuis plus de 10 ans. Sylvie Paré, vous avez été une institutrice comme les autres, d'ailleurs, tout comme Cécile, pendant 18 ans, c'est ça?
Dans oui.
une école primaire.
Hein. Dans une école primaire, cycle 3, tout à fait classique.
Avant de diriger le centre scolaire de cette maison d'arrêt à Nanterre, parce que on dit bien centre scolaire, hein, en prison, tous les mots changent, hein, et on va en parler avec vous. Sylvie Paré, vous aussi, Cécile Deram, vous aussi, vous avez été une enseignante classique, hein, institutrice, et vous publiez toutes les deux à quatre mains, donc l'école en prison, une porte de sortie, aux éditions du Rocher. Et quant à vous, les voisins et les voisines, bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions à nos deux enseignantes, pas comme les autres, au 33 1 84 22 71 71. Et également tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Bandoumal poste ce message de N'Djamena au Tchad. Bien sûr, vous avez le droit de commenter, hein, mesdames. Il nous dit que la prison est un lieu d'éducation et d'insertion socio-professionnelle, mais pas en Afrique. C'est un lieu de torture pour nous, dit-il. Les détenus n'étudient pas et vivent dans des conditions précaires, insalubres. Jackie est à Antananarivo, à Madagascar. Ici, les conditions de vie des détenus sont loin d'être respectées. Il n'y a pas d'école et ce sont quelques associations qui ont le courage de les aider dans leur parcours scolaire et professionnel à la réinsertion sociale. Bien sûr, vous pouvez aussi nous appeler pour réagir à ce que vous entendez, éventuellement aussi demander des conseils si vous faites partie d'une association religieuse ou autre, hein, qui a le privilège et la bonne idée d'entrer en milieu carcéral dans votre pays pour essayer d'aider les détenus à avoir accès au savoir, à l'écriture, à des livres. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. L'école en prison peut-elle être, malgré les difficultés, peut-elle rendre hommage à cette phrase de Victor Hugo que vous citez en ouverture de votre livre, « Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison ». Mais tout de suite, écoutez le témoignage d'Augustin, 28 ans. Il est sorti de prison il y a tout juste 6 mois, après un an d'incarcération. Aujourd'hui, il est informaticien, il vit en région parisienne et il s'est confié à Alice Milo.
Alors moi, j'étais étudiant, je faisais un master 1 en informatique. Je suis tombé en prison pour trafic de stupes.
Stupéfiant, hein, la drogue. Hein.
Oui, des stupéfiants. Je ne peux pas dire que j'étais un trafiquant de stupes. J'avais des amis qui faisaient dans le trafic de stupes. Et j'ai fait une erreur, je me suis retrouvé embourbé dedans. J'ai pris un an. Et je me suis dit que je pouvais continuer mon diplôme étant en détention. C'est-à-dire, si je pouvais continuer ma formation, avoir mon diplôme d'ingénieur. Mais j'avais pas la possibilité. Pourquoi? Parce qu'ils n'offraient pas un cursus supérieur au bac.
C'est-à-dire qu'on pouvait passer son bac en prison?
Oui, on pouvait passer son bac en prison.
Mais si vous aviez déjà le bac, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'offre pour les post-bac?
Si, il y en avait, mais en correspondance. Mais les démarches étaient très compliquées, ça prenait du temps. Franchement, on ne nous aidait pas trop aussi. Vous pouvez faire des courriers, ça met du temps, on ne vous répond pas. Vous demandez à être inscrit, on ne vous répond pas. Vous attendez des mois. Vous pouvez faire toute votre détention à écrire, à vouloir vous inscrire, mais rien, toujours rien.
Vous étiez en quelle année quand vous vous êtes fait arrêter?
Quatrième année.
Et donc il vous restait combien d'années pour valider votre diplôme?
Une seule année, il me restait une année. C'est 5 ans le diplôme d'ingénieur. Franchement, j'étais vraiment proche du but, c'est ça qui me faisait le plus mal.
Et donc du coup, qu'est-ce que vous avez fait alors?
J'ai fait des cours d'anglais, parce que mon anglais, il est vrai, il n'était pas trop bon. Donc j'ai profité pour faire des cours d'anglais.
Donc à la prison, vous proposez des cours d'anglais?
Il y avait une salle, bien équipé avec un tableau, un projecteur et deux enseignants. Et nous, on avait juste droit à une journée de cours par semaine.
Une heure par semaine ?
Oui, une heure.
C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup, mais on veut qu'on était nombreux. Ça se passait très bien. On faisait un peu de tout, de l'oral, l'écrit, la grammaire, le vocabulaire. Je me suis beaucoup amélioré. Donc déjà, c'était pour la suite de mes études. Et aussi parce que j'avais des ambitions de voyager à travers le monde. Et en deuxième lieu, c'était pour passer le temps. Parce que ça me faisait sortir de la cellule. Vu qu'on restait pratiquement près de 23 heures en cellule, c'était insupportable. Donc une heure de distraction à parler anglais, ça faisait toujours plaisir. On se rencontrait, on échangeait, on discutait, on partageait nos peines, ce qui nous faisait rire. Même des cigarettes, on s'échangeait des cigarettes aussi.
Vous avez suivi combien de temps ces cours d'anglais ?
Je les ai suivis 2 mois.
2 mois ?
Oui. Même en cellule, je continuais à me former, je continuais à apprendre. J'ai fait venir des livres, c'était des livres d'informatique.
Avec l'objectif du coup de vous former tout seul pour avoir votre diplôme en autodidacte.
Oui, c'était ça en fait. C'est un objectif que j'ai atteint, je le pense, parce qu'à la fin, quand j'ai sorti de détention, j'avais un bagage un peu plus élevé quand je suis rentré.
Mais pourtant, 2 mois à raison d'une heure par semaine, ça paraît pas beaucoup.
À raison d'une heure par semaine, mais on a 22 heures dans cellule.
Ah oui, donc en fait, vous travaillez toute la journée votre anglais.
La journée régulièrement, en continu. C'est pour ça que je vous ai dit, après je suis passé en psychiatrie parce que j'avais une dépression, parce que je travaillais tellement, je dormais plus. Je travaillais tellement, le matin au soir, au lieu de regarder la télé, parce que mon co-détenu, il aimait bien regarder des émissions, télé-réalité, et moi, ça me disait rien. Moi, je préférais prendre mes livres et les lire, je lisais beaucoup. Même en buanderie, quand je mettais les habits dans les machines, j'avais toujours mes livres, j'étais toujours en train de travailler.
Qu'est-ce que vous changeriez, Augustin, si vous étiez ministre de la Justice ou directeur d'un centre carcéral, pour que ce soit plus facile pour les détenus de pouvoir étudier en prison ?
Les bibliothèques, déjà, ne sont pas complètes. J'aurais aimé qu'il y ait plus de professeurs, plus de disciplines enseignées, un peu plus de temps accordé aux détenus pour ça. Celui qui a l'envie d'étudier, on lui donnera tous les moyens, on lui donnera ce qu'il faut, même des ordinateurs s'il faut. Parce que moi, en détention, j'ai demandé à avoir un ordinateur. J'avais fait des courriers au directeur de la prison, M. Jimmy Delis. Je lui ai fait des courriers lui expliquant que j'étais informaticien et actuellement, j'étais en train de me former en autodidacte et j'avais besoin d'un ordinateur. Et il m'a répondu non. Vous voyez, ça m'a un peu frustré. Ça m'a un peu frustré.
Donc, vous n'avez pas touché un clavier pendant 1 an ?
Non, je n'ai pas touché de clavier pendant 1 an.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Sylvie Paré et Cécile Doram, est-ce que le témoignage d'Augustin soulève des questions que vous retrouvez ? Bien sûr, je ne sais pas s'il est loin du profil du détenu qui étudie en milieu carcéral, parce qu'il était particulièrement motivé, lui, dans sa cellule.
Alors, il était très motivé. Là où c'est un petit peu marginal par rapport au public qu'on a dans la prison, c'est que peu sont en études supérieures, avec bac plus 4 déjà. Mais en même temps, on leur offre quand même la possibilité, évidemment par correspondance, de poursuivre leurs études. En informatique, des études en informatique comme ce monsieur, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il n'y a pas d'accès Internet. Et que bah, pour ce genre d'études, c'est la base quand même.
Oui, bien sûr. L'accès à l'enseignement en milieu carcéral est un droit fondamental des détenus, hein, il faut le dire, en France. Ça figure dans le code de procédure pénale. Est-ce que ce droit est globalement respecté ?
Alors c'est un petit peu compliqué avec la surpopulation carcérale en ce moment. Mais malgré tout, on rencontre tous les arrivants. Donc à tous les arrivants, on propose quand même la possibilité de suivre des cours. On prend prioritairement, et on les prend de toute façon tous ceux qui sont en situation d'illettrisme et tous ceux qui ne parlent pas le français, de façon à ce qu'ils puissent se débrouiller à minima dans la prison.
Et chez les mineurs, bien entendu, c'est complètement respecté puisqu'ils sont soumis à l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans. Donc tous les jeunes sont scolarisés dans la semaine qui suit leur arrivée en détention.
Ouais. Et pour les 16-17 ans, il y a une forte incitation, non ?
dans le règlement intérieur de la maison d'arrêt, la scolarité est obligatoire jusqu'à 18 ans.
Ouais, jusqu'à 18 ans, d'accord. Okay.
Donc ils viennent à l'école. S'ils passent majeur au cours de leur détention, on leur réserve une place prioritaire au centre scolaire des majeurs.
Néanmoins, évidemment, vous ne pouvez pas au centre scolaire, bien qu'il y ait en principe des centres scolaires dans tous les établissements pénitentiaires, hein, ça, vous ne pouvez pas proposer la même chose, la même offre éducative que dans un établissement scolaire.
Ah non, on est limité déjà par le nombre de professeurs, hein, même si donc à Nanterre, on est à 22 professeurs, 6 à plein temps et les autres sont vacataires. On ne peut pas proposer tout ce qui existe au niveau bac pro, bac techno, bac généraux. Mais en même temps, alors par exemple, si un élève arrive, un détenu arrive, alors qu'il est scolarisé à l'extérieur, même majeur, qui passe un bac quelconque, on continuera avec les moyens du bord, avec ses professeurs de lycée extérieur, sa scolarité, de façon à ce qu'il passe son bac, de toute façon à la fin de l'année, dans la même condition que les autres.
Alors c'est plus compliqué quand c'est des bacs professionnels ou qui nécessitent un travail en atelier, évidemment.
Mais sinon, on peut proposer à un élève détenu, lycéen, toutes les matières en principe, sauf s'ils sont à part les matières très techniques, mais on respecte à peu près le même programme que ce qu'on trouve dans l'éducation nationale.
Oui, oui. On a, les profs sont très adaptables, hein, donc...
C'est-à-dire que vous êtes multitâche, quoi.
Oui, et puis un prof d'histoire-géo, il fera aussi bien du brevet des collèges que du bac pro, qu'un bac ES, qu'un bac L. Voilà, donc on se met tous à la disposition des élèves en fonction de leur cursus quand ils en ont un. Et sinon, ils s'adaptent à nos propositions.
Alors évidemment, pour vous, toutes les deux, vous enseignez aussi bien à des mineurs qu'à des majeurs. Le contexte est radicalement différent.
Oui, complètement.
Mineur soumis à une obligation d'être éduqué, hein, de suivre un enseignement, et majeur qui viennent là parce qu'ils l'ont décidé.
Oui, et puis il y a une dimension supplémentaire chez les mineurs, puisque les majeurs, d'une part, sont volontaires, mais aussi peuvent tenir en groupe, dans une ambiance de travail agréable, alors que chez les mineurs, il faut aussi apprendre à rester ensemble dans la même classe.
Et vous racontez dans votre livre que, avec les mineurs, les premières minutes de leur arrivée en classe, pour vous, enseignante, sont complètement décisives. Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de facteurs qui peuvent les perturber quand ils entrent en classe. Alors ça peut être des facteurs extérieurs, hein, à la classe, un parloir qui n'a pas eu lieu, un jeune qui arrive avec une affaire médiatisée, enfin tous ces facteurs-là peuvent les déstabiliser. Et quand ils arrivent en classe, bah, y a certains...
Qu'est-ce que vous avez préparé au moment de l'arrivée en classe des détenus ? Ils sont combien en général ?
Alors, chez les mineurs, ils sont 4, 5 maximum. Et c'est vrai qu'on fait en sorte que...
Une classe de 5, vous vous rendez compte ? Vous racontez ça à nos enseignants
tout le monde nous écoute
parfois, qui ont des classes de 50, 60 sur le continent africain, voire 70, 80 élèves. Mais 5 apprenants, parce que vous dites des apprenants d'ailleurs, parfois, plutôt que des élèves.
Oui, des élèves aussi. Ouais.
C'est beaucoup
pour les mineurs, oui, c'est beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup d'incompatibilité d'humeur entre eux, il y a des niveaux scolaires très différents, il n'y a pas forcément l'appétence pour les apprentissages qui est là, donc il y a tous ces facteurs à prendre en compte.
Et alors, vous dites, il faut surtout que tout soit prêt quand ils entrent dans la classe, parce que là, vous démarrez, vous êtes sur le fil du rasoir. Alors, qu'est-ce qui doit être prêt impérativement ? Expliquez-nous.
Alors, on les accueille... ils viennent nous saluer, ils viennent nous serrer la main, il y a déjà le croisement de regard qui est important. Ils ont un rapport à l'autorité qui est vraiment compliqué, donc nous on ne se situe pas spécialement dans l'autorité d'ailleurs. Hein,
Vous ne représentez pas l'institution carcérale d'ailleurs ?
Non, pas du tout.
Vous n'en faites pas partie réellement.
Et on le rappelle souvent, parce qu'il arrive qu'ils nous appellent surveillantes, on dit « ah non, pas nous ». Bon, simplement pour que chacun soit à sa place, quoi. Donc il y a le moment où ils nous saluent, ils nous serrent la main, on se regarde. Ensuite, on a préparé sur leur table les feuilles avec lesquelles on va travailler.
Vous avez nettoyé les tables. Voilà. Vous avez gommé ce qui est écrit, ce qu'ils ont écrit, les autres cours, les autres détenus.
Bah oui, ce sont en général des insultes, donc ça va démarrer, ça risque de partir tout de suite en live. Donc effectivement, on gomme les tables avant de commencer.
Et puis aussi pour accueillir dans un contexte le plus favorable possible au travail, donc avec des tables propres, du matériel et un tableau préparé.
Il y a un surveillant qui est présent avec vous lorsque vous faites cours à ces 5 détenus.
Alors, il n'y a pas de surveillant dans la classe. Il y a un surveillant, normalement, sur la zone, qui est chargé aussi de gérer des mouvements de jeunes qui vont en promenade chez les mineurs, en fait. Il y a toute une zone qui leur est réservée en détention, puisqu'ils ne doivent pas croiser les majeurs. Et donc, il y a leur couloir d'hébergement, une cour de promenade et une zone qui accueille deux salles de classe. Et puis aussi un bureau pour leurs éducateurs. Enfin, tout est à peu près au même endroit.
Vous connaissez parfois des poussées de violence de détenus dans la salle de classe ?
Ça peut arriver. C'est relativement rare, mais c'est arrivé. Et dans ces cas-là, c'est pas confortable du tout.
C'est-à-dire ?
Parce que
se passe-t-il ?
Le jeune peut vraiment s'énerver, lancer du matériel dans la classe. Les classes sont pas très grandes, donc en général, ça nous est jamais destiné.
Il ouais, hein, y a un détenu quand même qui arrive à décrocher un radiateur. Hein,
oui,
faut le faire.
Oui, oui. Très énervé. Donc, dans ces cas-là, les surveillants interviennent pour essayer de maîtriser le jeune, et puis le cours est interrompu pour lui.
Donc, vous faites cours en terrain miné ?
Un petit peu, oui. Mm-hmm. C'est,
vous êtes des démineuses.
C'est des jeunes qui... on parle plutôt des mineurs, là, parce que les majeurs, c'est vraiment un autre enseignement. Hein. Donc, les mineurs, c'est des jeunes qui ne supportent pas du tout la frustration. Déjà, les adolescents ont du mal à la supporter. Mais là, on est face à des jeunes qui sont enfermés, quand même, derrière des barreaux. C'est une situation qui n'est pas normale à l'adolescence. Donc, c'était déjà à l'extérieur difficile de gérer la frustration. Mais là, c'est impossible. Donc, le moindre caillou dans la chaussure va faire exploser. Mmh.
Il y a une question d'un auditeur, José, qui est à Abomey-Calavi, au Bénin, et qui vous demande dans quel état d'âme les étudiants vont-ils en classe dans un milieu carcéral ?
Alors, les majeurs, ça peut être... au départ, quand ils viennent à l'école, c'est souvent parce qu'ils ont envie de sortir de la cellule. Donc, c'est une façon de se balader un peu, de s'aérer. Et puis, en fait, là, c'est tout notre travail d'enseignant, de leur montrer à quel point, en fait, ils connaissent déjà des choses... Et puis on va leur en apprendre de nouvelles et ils vont sortir plus grands, plus citoyens, voilà.
Et pour les mineurs ?
Pour les mineurs, comme ils sont soumis à l'obligation, c'est toujours la même chose. Hein. Ils arrivent pas forcément avec un état d'esprit favorable au travail, mais il y en a de plus en plus quand même qui arrivent, qui sont scolarisés à l'extérieur et avec des niveaux de scolarité qui augmentent. Et donc quand même, il se passe des choses, beaucoup plus de choses pour eux en classe.
Est-ce que globalement, vous diriez qu'il s'agisse des détenus majeurs ou mineurs, il y a quelque chose de commun dans leur relation au savoir, dans leur relation à l'école, à l'institution scolaire, pour la majorité des détenus, dans leur parcours personnel, dans leurs histoires?
Oui, l'école n'a pas toujours... a très souvent même eu un rôle assez négatif, en fait, sur ces... c'était des jeunes, que ce soit les majeurs ou les mineurs, hein, d'ailleurs, qui avaient du mal à rentrer dans les apprentissages, sauf ceux qui sont scolarisés actuellement. Mais ils gardaient une image très négative de l'école et des professeurs.
Ça vous a réinterrogé, du coup, vous-même, comme ex-enseignante de l'école, je veux dire, dehors de l'école, en dehors de la prison, ou pas ?
Mais oui, d'ailleurs, on en parle dans le livre, parce que c'est vrai qu'on était aussi ces enseignants normatifs, et qu'on a pu constater quand même les dégâts que l'école peut faire, et qu'on a dû faire aussi pendant notre enseignement. Et oui, ça a été une grosse remise en question, et leur redonner goût à apprendre et leur redonner goût au savoir et à la connaissance et à tout ce que ça pouvait leur apporter. C'est vraiment tout le début de notre relation avec eux à chaque fois.
Vous enseignez uniquement à des hommes, puisque la maison d'arrêt de Nanterre, il n'y a que des hommes. Hein, ça ne pose pas de problème.
Non, il y a beaucoup de femmes en prison. Il y a beaucoup de surveillantes, il y a beaucoup de psychologues, il y a beaucoup de conseillères d'insertion. Enfin, ils sont très habitués à voir les femmes et ça pose absolument aucun problème.
En tout cas, ils vous disent parfois, vous sentez bon l'extérieur quand vous arrivez le matin. Alors, qu'est-ce que vous savez d'eux, de leur histoire ? Il y a des réunions de synthèse chaque semaine. Est-ce que vous connaissez aussi les raisons pour lesquelles ils se sont retrouvés derrière les barreaux ? Et puis, surtout, comment vous travaillez, comment vous enseignez et qu'apprennent-ils ? Sylvie Paré, Cécile de Rame, vous restez avec nous. Comment l'ouverture au savoir peut-elle rendre supportable l'incarcération et permettre une réinsertion ? On en discute et bien sûr, les voisins, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71 ou poster vos messages et vos questions bien sûr sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes maintenant, toujours sur RFI, après le flash.
La bande, 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On parle éducation comme chaque vendredi, mais aujourd'hui une éducation bien particulière, l'école en prison, une porte de sortie. C'est le titre de votre récit témoignage, Cécile Deram et Sylvie Paré. Vous êtes toutes les deux enseignantes à la maison d'arrêt de Nanterre, en banlieue parisienne, depuis plus de 10 ans. Et c'est vrai que grâce à vous, on pénètre finalement par une autre porte dans l'univers carcéral, loin des témoignages ou des revendications des détenus ou des surveillants. C'est un monde qui est évidemment sous pression. Avec vous, on dessert un peu l'étau, mais on comprend beaucoup de choses dans votre livre. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71 pour réagir si vous êtes enseignant et pas du tout professionnel du monde carcéral, par exemple. Nous donnons la parole à un auditeur qui nous appelle de Conakry, en Guinée-Conakry. Bonjour Amadou.
Bonjour Emmanuel.
Amadou, alors vous, je ne sais pas, vous nous appelez en tant qu'enseignant ?
Non, je vous appelle en tant qu'étudiant.
D'accord. Et vous souhaitiez vous exprimer sur le monde de la détention en Guinée-Conakry ?
Oui, bien sûr. Mmh. Je veux parler de la détention dans le cadre général dans les prisons africaines. Mmh. Au fait, dans ce milieu, l'éducation, bien sûr, c'est une chose nécessaire puisque il faut...
Amadou, excusez-moi, mais il y a beaucoup de bruit autour de vous. J'entends des gens qui tapent, il doit y avoir des artisans, je ne sais pas. Pouvez-vous vous éloigner un tout petit peu et on vous redonne tout de suite la parole ? On vous écoute, Amadou.
D'accord. Comme je le disais, dans ce milieu, il y a, comme à l'école, c'est indispensable, s'il faut le dire, puisque ça permet la réinsertion de ces derniers. Mais il y a des choses au préalable qu'il faut tenir en compte. Bien sûr, c'est la condition de vie de ces détenus. Ces détenus, on doit les mettre dans de très bonnes conditions pour qu'ils soient préparés moralement et psychologiquement afin de suivre ces cours. C'est ce que je me rappelle de la fameuse affirmation de Victor Hugo qui dit « Ouvrir une école, c'est fermer une prison ». Donc, bien sûr que ces personnes, les détenus, ont le droit de suivre des cours dans ces prisons. Une chose qui leur permettra de se réintégrer dans la société, de leur faire distinguer le bien et le mal. Mais au préalable, les difficultés, il faut tenir compte des premiers aspects qui sont la condition de vie de ces prisonniers. Puisque, comme je le disais au préalable, au début, il y a de ces prisons où les cellules sont très, très restreintes. Et également, ces prisonniers sont mal nourris. Ils vivent dans des conditions très, très difficiles. Donc, si tous ces aspects ne sont pas réunis, ne sont pas très bons, donc c'est une difficulté pour eux de suivre les cours. Toutes leurs préoccupations resteront hautes.
C'est ça, ce que vous voulez dire, c'est que, étant donné l'état des prisons africaines, puisque vous semblez vouloir parler pour les prisons africaines en général, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait un accès efficace à l'éducation et au savoir. C'est bien ça, Amadou ?
Oui, bien sûr, je parle de la condition dans laquelle les prisonniers vivent. En fait, vous savez, toute chose, il faut qu'on soit prêt moralement.
Il faut être prêt moralement. Oui, vous posez une bonne question. Merci beaucoup, Amadou, de nous avoir appelé. Alors, Amadou nous dit qu'il faut être prêt moralement. Alors, on ne va pas comparer la situation et la surpopulation carcérale en France et dans les prisons africaines. Néanmoins, la France fait quand même partie des mauvais élèves des pays développés, voire des très mauvais élèves des pays développés en termes de surpopulation carcérale. Et donc, avec de mauvaises conditions de détention, est-ce que vous ressentez, en tant qu'enseignante, un lien entre les problèmes que rencontrent ces mineurs, ces majeurs dus aux mauvaises conditions de détention et les difficultés pour apprendre, puisqu'ils sont bien là avec vous pour apprendre.
La surpopulation carcérale fait qu'au lieu d'être deux dans une cellule, par exemple, il peut arriver qu'il soit jusqu'à quatre. Étudier dans ces conditions, notamment je pense à un élève qu'on avait qui, après avoir brillamment réussi son bac chez nous avec mention bien, avait continué ses études par correspondance avec le CNAM. Et la seule solution qu'il avait trouvée, c'est de se lever tous les matins à 4 heures du matin pour pouvoir étudier
pendant
jusqu'à 8
heures, pendant que les autres dormaient.
Et il a réussi, et cet effort en même temps qu'il faisait, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme si ça lui ouvrait l'esprit et qu'il était d'une concentration incroyable pendant ces 4 heures. Et il a réussi brillamment aussi cette année de CNAM. Donc, je pense que la volonté, en fait, quand ils l'ont, ils arrivent à trouver des solutions. Nous, on les aide en leur donnant accès, par exemple, pour ceux qui suivent des études supérieures, à des salles de classe où ils viennent dans la journée pour étudier leurs cours par correspondance, les livres qu'ils ont pu récupérer à la fac, etc.
Où là, ils sont au calme, donc.
Complètement
au calme.
Il n'y
a pas un détenu qui regarde la télé en même temps.
Non, non. Mmh. Ah non, non, voilà, là, c'est, ils sont tous, ils peuvent être plusieurs par, dans la salle de classe, d'ailleurs. Il y a un silence extraordinaire. Ils sont très concentrés. Ils peuvent travailler ensemble aussi. Et d'ailleurs, un détenu me disait hier, en fait, entre la détention et l'école, il y a un mur. Alors, j'étais assez étonnée, ce mur, je le trouvais ça assez impénétrable. Mais il m'a dit, quand on arrive à le traverser, quand on arrive à l'école, c'est le paradis. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait plus les bruits de clé, qu'il n'y ait plus de bruit, en fait, on ne parle pas fort, on ne s'invective pas. C'est, il y a une espèce de calme et de bulle. Et cette bulle, il l'apprécie énormément.
Oui. Cécile Doram.
Oui, alors l'apprentissage est aussi freiné, je pense notamment aux mineurs, par toutes les préoccupations qui peuvent polluer l'esprit, enfin leur histoire. Mais on a aussi des cas de jeunes qui, grâce à l'école, même s'ils n'arrivent pas dans de bonnes conditions pour l'apprentissage, l'école à un moment donné les pose un petit peu et ils affichent un autre comportement en détention après. Mmh. Donc les choses s'imbriquent en fait.
L'estime de soi, c'est ce qu'on, enfin, on travaille vraiment beaucoup là-dessus, hein, sur la revalorisation, sur l'estime de soi. Et c'est vrai que les positionner comme élèves, ça leur permet de redevenir des hommes à part entière.
Mmh. Un élève et pas seulement un détenu. Mmh. Comment vous vous appelez les uns les autres? Vous, on vous appelle comment?
Moi, il m'appelle Sylvie, madame. Madame Sylvie. Madame la directrice, moi j'ai droit à tout.
Et vous?
Cécile ou madame, ou très exceptionnellement maman chez les mineurs.
Oui, ça en dit long aussi hein, sur les carences affectives qui peuvent survenir, et pas seulement parce qu'ils sont des détenus d'ailleurs, mais parce que certains d'entre eux ont connu des carences affectives toute leur vie en réalité, non?
C'est vrai qu'ils ont des parcours de vie pour certains qui nous, vu de notre milieu, si vous voulez, on pensait pas que ça pouvait exister. Et c'est des moments très poignants, notamment chez les mineurs, parce qu'on a une réunion une fois par mois autour des mineurs avec les juges, les éducateurs qui les suivent à l'extérieur. Donc on pénètre un peu plus dans leur vie, si vous voulez, depuis leur toute petite enfance. Et effectivement, on découvre des parcours de vie, mais on se demande, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de finir par les retrouver là, quoi.
Mmh. À quoi vous pensez? À qui vous pensez?
Ben notamment à un jeune avec un parcours institutionnel depuis quasiment le berceau.
Ça veut dire quoi, un parcours institutionnel?
Voilà, alors un jeune qui est retiré rapidement à sa famille, qui est placé, qui va de foyer en famille d'accueil et pour lequel il n'y a jamais rien qui fonctionne.
Qui est né d'une mère toxicomane et d'un père inconnu, hein, c'est bien ça.
Voilà.
Mmh. Et oui, donc, qui n'a connu que des foyers.
Voilà. Et puis, qui ne peut faire confiance à personne, en aucun adulte. Voilà, un parcours chaotique sur le plan affectif, sur le plan personnel, sur le plan scolaire, enfin il y a...
Et le dernier foyer qu'il connaît, donc, c'est la prison, enfin c'est là que nous on le retrouve en tout cas. Donc on avait réussi à créer un lien avec lui, enfin la confiance commençait à être mise en place, et puis quand il a senti qu'il avait confiance en nous, il a tout cassé quoi, c'était pas possible pour lui. Mmh. Il avait trop peur qu'il se passe encore un échec, et donc il a tout mis en échec. Et ça a été extrêmement douloureux.
Comment s'y est-il pris pour tout casser, cette relation de confiance?
En étant odieux, en refusant tout enseignement, en refusant après de nous parler. Enfin,
et puis en cassant physiquement sa cellule.
Plus, oui.
Voilà. Donc après, il y a des transferts qui se font, enfin, il ne reste pas.
Vous avez entendu dans le point de vue d'Amadou, étudiant à Conakry, il a dit oui, le savoir en prison, ça doit servir aussi à apprendre à distinguer le bien et le mal. Vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Oui.
Oui.
Je trouve que le bien et le mal, bon, je serais peut-être pas si manichéenne, mais en tout cas, le savoir permet de redevenir citoyen. C'est souvent des jeunes hommes qui ont un peu oublié ce qu'était être citoyen, qui ont des points de vue très tranchés. Ils sont très peu tolérants. Et donc, tout le travail qu'on fait autour de la citoyenneté, la laïcité, etc., c'est les amener à devenir tolérants et à partir de là, d'être... effectivement, de mieux distinguer ce qu'est le bien du mal.
Beaucoup de jeunes en recherche de figures identitaires, hein, chefs de bande, notamment. Oui.
Des chefs de bande, oui. Ben, nous, à l'école, si vous voulez, on ne le voit pas vraiment parce que C'est nous le chef de bande.
Oui, vous aimeriez, mais il y a aussi d'autres chefs de bande à l'intérieur.
Mais à l'école, ça ne s'exprime pas comme ça. Donc c'est un monde très différent, la détention de l'école quand même.
Est-ce que la religion est devenue omniprésente dans la détention? Est-ce que vous le ressentez ça? Alors, disons clairement l'islam, hein, puisque on a maintenant plusieurs jeunes qui sont incarcérés pour terrorisme.
Jeunes et moins jeunes, hein, il y a effectivement, c'est assez récent pour nous. Même après les attentats de 2015, c'est pas arrivé tout de suite. Là, en ce moment, ça s'accélère. La détention des terroristes, c'est assez compliqué parce qu'il y a des... Certains sont vraiment radicalisés complètement et là, on voit pas très bien comment on peut arranger les choses, en tout cas. Et d'autres sont encore à la limite, sont classés comme terroristes, mais on sent qu'il reste encore une fibre possible, donc... On met en place des actions, notamment de géopolitique, pour essayer de faire bouger un petit peu les lignes. Pour certains, c'est compliqué. Ils ne supportent pas d'entendre ce qu'on peut connaître de l'islam, ce qu'on peut connaître de l'évolution de cette religion.
Et c'est-à-dire que vous adaptez quand même beaucoup l'enseignement au cas par cas, non? J'ai l'impression, dans ce que vous dites.
Oui, bah, on est obligé. On fait, en fait, pour réagir au cas par cas, comme vous dites. On fait des séminaires, donc par exemple de géopolitique, où on va prendre 15 détenus qui vont suivre ce séminaire, des détenus pour la plupart volontaires, et puis on va essayer de mettre dans ce séminaire deux personnes en cours de radicalisation, par exemple, pour essayer de leur apporter un savoir qui leur permettra de voir autrement leur religion.
Cécile Doram. Sur la place de la religion chez vos élèves?
Oui, alors les mineurs sont aussi concernés par cette problématique et ils sont également pris en charge en géopolitique, hein, toujours par cette personne qui fait ses séminaires, alors d'une manière individuelle. Et voilà, alors certains, en fonction de leur profil, accrochent et bougent leur ligne, en effet, pour d'autres, c'est plus compliqué.
On se pose la question, quand on vous écoute, qui sont les enseignants, finalement, en milieu carcéral? Vous connaissiez toutes les deux avant, hein, d'enseigner en milieu carcéral, mais qui sont tous ces profils? Qui êtes-vous, vous tous?
Alors, nous sommes des professeurs bien ordinaires.
S'est-il passé dans votre vie pour que vous deveniez enseignante en prison?
Bah, enfin, en tout cas pour moi et puis pour pas mal d'enseignants, l'intérêt d'enseigner à des adultes, c'était bon, pour changer quand même un petit peu de voie après un certain nombre d'années.
Après l'école primaire, oui.
Voilà. Pour beaucoup d'enseignants, je pense que la notion d'enfermement est quelque chose qui nous paraît tellement compliqué qu'on se dit peut-être qu'on peut apporter quelque chose. Donc il y a effectivement une démarche, je pense, assez altruiste au départ. Et puis après, on se prend de passion, puisqu'on est une équipe extrêmement stable. Hein. On est tous là depuis très longtemps. On se prend de passion, et puis tout est renouvelé tout le temps. Voilà, par exemple, cette nouvelle problématique des terroristes nous a fait nous remettre aussi en question, renouveler notre enseignement, chercher des solutions. Et tout ça est passionnant.
Mais renouveler notre enseignement, chercher des solutions, comme vous dites. Alors, vous parlez de cours de géopolitique. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles, d'autres pratiques sur lesquelles vous vous interrogez dans votre métier, justement, avec cette arrivée massive de recherche de sens, en tout cas, autour de la spiritualité, pour parler plus largement, et pas seulement des condamnés pour terrorisme, d'ailleurs.
Hein. Non, ça concerne effectivement...
Des détenus qui ont pu tomber pour d'autres raisons, hein, d'ailleurs.
Voilà, et qui peuvent être... influencé par certains. C'est tout le problème en ce moment, hein. De toute façon, avec en plus toujours cette surpopulation carcérale, si vous voulez, de préserver ceux qui sont fragiles, qui ne se laissent pas entraîner. Bon, après, ils sont à l'école de temps en temps, mais ils sont aussi beaucoup en promenade et beaucoup en cellule. Enfin, beaucoup en promenade. Ils sont en promenade, en cellule. Ils sont avec... ils sont plus exposés, si vous voulez.
Cécile Doram, pour vous, en tant qu'enseignante, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on enseigne dans le milieu carcéral? Est-ce que c'est de vivre, de cohabiter avec cette souffrance des détenus?
En effet, c'est pas simple. Maintenant, ça fait partie aussi de notre travail. Et ce qui est passionnant, c'est vraiment de rencontrer des profils très différents, d'avoir affaire à des gens qui ont déjà un parcours de vie. Et... des âges différents, des profils scolaires différents, enfin de pouvoir donner à chacun un petit peu ce dont il a besoin.
Et en même temps, vous devez en permanence renoncer à des exigences ou pas? par rapport à votre travail dans une école normale?
Bah oui, parce qu'ils étudient pas dans les mêmes conditions quand même. Donc nous nous adaptons à leurs conditions un peu difficiles.
Vous parlez d'adaptation et pas de renoncement, c'est ça?
Ah non, ça on renonce jamais. Mais oui, on s'adapte. Effectivement, comme le disait Cécile tout à l'heure, leur état d'esprit peut changer. Quand ils ont par exemple un parloir fantôme, c'est vrai chez les mineurs comme chez les majeurs.
Un parloir, hein, on va décoder. Hein,
voilà, c'est quand alors le parloir fantôme, c'est qu'ils avaient prévu de voir quelqu'un de leur famille ou un ami au parloir, et puis la personne ne vient pas pour une raison X ou Y, ils ne savent pas d'ailleurs en général. Et donc ils arrivent, ils espéraient ce parloir, donc il y a une frustration énorme, et quand ils reviennent en cours derrière, il va falloir qu'ils en parlent, il va falloir qu'ils évacuent, de façon à pouvoir... Une fois qu'ils ont évacué tout ça, ils sont prêts à apprendre, mais pas avant.
Oui, pour vous, Cécile Doram?
Mais oui, en effet, pour les mineurs, c'est assez caractéristique, puisqu'en plus, très rapidement, ils parlent entre eux. Et on peut très vite être transparent en cours, donc il faut pouvoir remobiliser tout le monde d'une manière rapide.
Vous avez 5 élèves et c'est en fait très vite un tumulte énorme, hein, oui. C'est ce que vous racontez.
Oui, il y a parfois des situations où ils se mettent à parler entre eux, fort, de choses qui ne concernent pas du tout le cours. Et il faut vraiment savoir trouver le petit élément, le bon regard, le bon geste pour réaccrocher tout le monde. Sur ce qu'on est en train de faire en classe.
Vous restez avec nous, vous allez nous dire justement comment vous recaptez l'attention de ces détenus et surtout si votre métier dans ce milieu si particulier, finalement, peut servir de modèle, de guide pour des enseignants qui enseignent tout simplement dans des écoles classiques. The road is rough chez 7 milliards de voisins et nous parlons de ce milieu carcéral où des enseignants, puisque c'est la loi en France, ont mission d'éduquer, de proposer un enseignement, alors un enseignement obligatoire pour les mineurs jusqu'à 18 ans, et puis donc c'est bien un droit, hein, et puis pour les majeurs, un droit à l'éducation s'ils souhaitent poursuivre ou entamer une formation, des études. Quelles rencontres, quelles histoires, je pose la question à toutes les deux, Sylvie Paré et Cécile Doram, quelles histoires donnent un véritable sens à votre mission, puisque vous avez beaucoup parlé des difficultés, de ces moments très instables dans la salle de classe, notamment avec les mineurs qui ne viennent pas forcément là de gaieté de cœur, contrairement aux majeurs qui ont choisi de venir en apprentissage. Mais alors les belles histoires, les belles rencontres,
hein. Alors, les belles rencontres, il y en a quotidiennement, hein, heureusement d'ailleurs. Mais une belle histoire, je trouve, c'est la remise des diplômes. On a donc nos élèves qui ont travaillé toute l'année pour préparer un diplôme de langue française, l'ancien certificat d'études qui s'appelle le CFG, le brevet des collèges, le bac, etc., les BEP. Et donc, ils ont travaillé dur pour ça. Le CFG, mettons, le certificat d'études, pour la plupart, ça va être leur premier diplôme de l'éducation nationale, un vrai diplôme. Et on fait une remise des diplômes très officielle avec le chef d'établissement, avec le directeur académique. Tout le monde est là. Et ils sont tous devant nous et on va leur
remettre... Donc le directeur de la prison aussi.
Oui, c'est ça, le chef d'établissement de la prison. Le proviseur de l'UPR. Enfin bon, tout le monde est là. Les professeurs sont là aussi. Et on leur remet leur diplôme avec un livre, comme une remise des prix, un petit peu, si vous voulez. Et donc, c'est des moments très émouvants parce qu'il y en a qui pleurent en recevant le diplôme. Alors, nous aussi, hein, bien sûr, on est avec eux. Et puis là, cette année, pour la première fois, le directeur de la prison a souhaité que les familles soient associées. Et donc, il a invité les femmes aussi à venir à cette remise de diplôme. Donc, c'était alors moment d'émotion intense. Et les femmes n'ont pas encore, il n'y en a pas eu beaucoup qui sont venues parce que c'était une première et c'était difficile pour elles de rentrer. Mais c'était tellement beau de les voir fières de leur mari qui recevait ce diplôme. Voilà, c'était un grand moment d'émotion et un joli moment.
Cécile Doram, il y a aussi des moments fugaces auxquels vous ne vous attendez pas, où tout marche comme par magie dans la salle de classe.
Oui, oui, oui. Et c'est toujours des belles surprises. Et ces moments peuvent durer, c'est-à-dire avec un groupe, parfois il y a une ambiance de travail qui s'installe, et puis, ou avec un jeune, quelque chose qui s'installe dans la durée. Je pense notamment à un jeune qui est arrivé, qui était sur un parcours de bac, et qui s'est attablé vraiment avec plaisir en classe, et s'est mis dans les apprentissages, enfin, n'a pas laissé d'espace en fait entre l'extérieur, entre son lycée de l'extérieur et la maison d'arrêt, et puis qui a avancé comme ça avec nous pendant quelques mois, et on avait mis beaucoup d'espoir dans son bac, et puis bon, malheureusement ça marche parfois pas toujours comme on le souhaiterait. Ce jeune est passé majeur à un moment donné, et puis il a eu un jugement pendant les épreuves du bac qui l'ont complètement déstabilisé, et puis après bon, ça a été un peu comme une spirale infernale, hein. Ça a été très difficile aussi pour nous de le voir
décompensé.
Voilà, cette déchéance.
Condamné à une peine relativement longue.
Oui, oui. Alors que, voilà.
Pour des faits criminels.
Oui.
Grave.
Alors, vous dites que ce qui est compliqué aussi dans votre métier, c'est que finalement, le matériel pédagogique, les CD, les lecteurs de CD, c'est un combat permanent hein, pour faire rentrer du matériel. On a l'impression que, enfin, en tout cas du matériel un peu pointu, que ces lecteurs de CD circulent plus difficilement que la drogue en prison. Non ?
Alors là-dessus, comment c'est possible ?
Non, mais je veux dire, il y a des détenus qui vous disent « Ah oui, mais moi j'ai besoin de ça pour avoir mes cours par correspondance, entendre le cours. » Et vous faites des pieds et des mains pour leur procurer, pour faire rentrer ces objets.
Pour les faire rentrer ou pour les faire accepter, si vous voulez, parce que les faire rentrer, à partir du moment où ils les payent, par exemple les ordinateurs, c'est vrai que certains détenus en ont besoin pour poursuivre leurs études. Après, c'est la direction qui accepte ou pas que le détenu ait un ordinateur. Mais encore, franchement, à Nanterre, je trouve que nous, on n'a pas trop à se plaindre. Hein. On travaille dans de bonnes conditions. On nous permet quand même d'avoir le matériel... Oui, pratiquement tout le matériel dont on a besoin.
Être capable d'enseigner en prison, est-ce que pour vous, c'est une école qui réinterroge votre métier ? Est-ce que vous êtes, vous retrouvez capable d'inventer des choses que vous n'auriez pas imaginées, qui pourraient servir aux enseignants de l'extérieur ?
Oui, enfin on espère l'avoir fait un petit peu passer dans notre livre. C'est vrai que ça nous a permis de créer des outils pédagogiques auxquels effectivement on n'avait pas pensé. Et puis...
Quoi par exemple ?
Je sais.
Vous parlez beaucoup de la bande dessinée, d'ateliers de bande dessinée.
Tout le travail qu'on a pu faire autour de des dessins justement
humoristiques
après les attentats de Charlie, etc. On a créé, oui, des outils tous ensemble. On travaille beaucoup en équipe. Hein. On est une équipe effectivement très soudée. Et on a besoin de beaucoup parler pour un peu vider notre sac aussi parfois en sortant d'une classe. Donc oui, on crée des outils pédagogiques. Si vous voulez, c'est paradoxalement. On est plus libre en prison pour enseigner, on est moins dans un carcan de programme qu'à l'extérieur.
Cécile Doram, vous restez parfois en contact avec les détenus après leur libération ?
Non, pas du tout.
Vous ne le souhaitez pas ?
C'est souhaitable, je pense, ni pour nous, ni pour eux. Il faut aussi qu'ils prennent leur envol.
Mais certains vous donnent des nouvelles ?
Alors, pour ce qui est des mineurs, on a parfois des nouvelles via les éducateurs qui s'en occupent. Voilà, mais assez peu. Ils nous échappent rapidement.
Et pour les majeurs, certains nous envoient des cartes postales du bout du monde ou nous écrivent des lettres pour nous donner des nouvelles quand même, nous dire Voilà, ils écrivent une ou deux fois, et puis après, on n'est quand même pas le meilleur souvenir de leur vie non plus. Enfin, l'école, j'espère, mais pas la détention.
Ouais. L'une d'entre vous, quand même, s'est vue attendre sur le parking de la prison avec des fleurs après la sortie d'un détenu, non, me semble-t-il.
Ouais, ouais, qui fleurissent toujours, d'ailleurs. Je pense toujours à lui. Oui, avec un bouquet d'orchidées absolument incroyable. C'était un jeune que j'avais suivi particulièrement. Il avait vécu un drame pendant la détention. Son père était mort et donc j'avais été assez présente pour le seconder et pour lui permettre de continuer malgré tout à avancer, de continuer ses études et de sortir avec quelque chose et d'avoir confiance en lui en sortant.
Vous, voilà. Vous parlez de votre métier, en fait, qui est bien plus qu'un métier, hein, et de ces jeunes ou de ces majeurs que vous accompagnez, auxquels vous enseignez. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce que vous dites. Et en même temps, dans votre livre, en permanence, vous dites il faut remettre de la distance, remettre de la distance. Pourquoi cela ?
Remettre de la distance ?
Entre vous, entre eux ?
Bah, pourquoi ? Parce que on a une vie en dehors de la prison et qu'il est important justement de trouver la bonne distance, qui n'est pas toujours évident, en tout cas au début.
En tout cas, il faut lire votre livre. Merci à toutes les deux, Sylvie Paré et Cécile Doram. L'école en prison, une porte de sortie. C'est paru aux éditions du Rocher. Merci d'être venu. Merci à toute l'équipe.
Beaucoup.
Lundi, 7 milliards de voisins, enquête et reportage de Charlie Dupiot auprès de jeunes françaises de confession musulmane. Elles ont entre 20 et 35 ans. Tous les jours, on leur demande d'être tout à la fois françaises, musulmanes, voilées, libérées, pudiques, laïques ou encore vierges. Et c'est sur elles que reposent aujourd'hui les débats les plus politiques, confisquées le plus souvent par des hommes. Elles sont en tout cas unies par une seule hantise, être récupérées, et une seule et même envie, revendiquer leur pluralité. Elles auront la parole. Ne manquez pas l'émission lundi.
International.
Ali Al.